Quel ami est pour nous Jésus, haut élevé, exalté. Il nous a réconciliés avec Dieu et intercède pour nous dans la prière. Qui peut mesurer combien se perd? Vers le Seigneur et le cherchons pas dans la prière. Quand l'ennemi nous menace et que la tempête nous menace autour de nous, nous n'avons pas besoin de craindre. Nous nous tenons dans la prière, dans la foi. Alors Jésus prouve sa fidélité. Comme il se tient à notre côté, il manifeste son salut puissant et exauce nos prières. Chargé de soucis, matin et soir, Jésus nous secourt certainement. Nous venons à lui dans la prière. Quand les amis nous abandonnent, nous allons à la prière. Nous venons à la prière. Et ainsi Jésus est pour nous. Roi, sacrificateur et prophète. Jésus conduit. Jésus conduit de nouveau à main puissante son Église dans son pays, dans l'endroit de la pureté. Il la sort de la confusion où elle était. Honneur à Dieu, gloire à Dieu. Nous le chantons à nouveau. Gloire à Dieu pour sa fidélité. Louez Yahvé. À Sion avec des cantiques. Jésus nous rêvait pour la sainte guerre. Il rêvait tous les rachetés. Il les conduit à la victoire. Écoutez le cantique joyeux de victoire. Voyez le troupeau qui revient à Sion. Gloire à Dieu. Nous le chantons nouvellement. Gloire à Dieu. Pour toute sa fidélité, louez Yahvé avec des cantiques glorieux, avec joie en Sion. Jésus bâtit qu'une seule église. Elle est parfaite, sans tache, sainte et pure. Mais par le pouvoir de destruction de l'ennemi, elle est allée dans l'obscurité et dans les ténèbres de la nuit. Gloire à Dieu, nous le chantons nouvellement. Gloire à Dieu, il la ramène à Sion. Gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Yahvé avec des cantiques de joie à Sion. Jésus rassemble à la fin des temps tous ceux que Satan a éparpillés. Joyeux, ils reviennent à Sion où le bonheur éternel les attend. Gloire à Dieu. Nous le chantons nouvellement. Gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Yahvé avec des cantiques spirituels célestes, joyeux à Sion. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons chaleureusement tous ceux qui écoutent, regardent et sont connectés à cette transmission vidéo et à cette méditation de la parole avec frère Franck. Que le Seigneur nous bénisse tous de la richesse de sa grâce. Puisse-t-il également fortifier frère Franck et lui donner la force de faire parvenir la parole à nous de manière puissante. Aujourd'hui encore, nous attendons une grande bénédiction et puisse-t-elle servir à nous orienter et à nous revêtir pour le jour de son glorieux retour. Lisons ensemble une parole de la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, du verset 3 à 11 inclus. De Pierre, chapitre 1, verset 1 à 11. Sa divine puissance, en effet, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. C'est par elle qu'il nous a donné, en nous assurant de sa part, les plus grandes promesses précieuses et extrêmement importantes, afin que par elle, vous échappiez à la corruption qui règne dans le monde par suite de la convoitise des sens et que vous deveniez participants de la nature divine. C'est pourquoi il faut aussi que vous mettiez tout votre zèle à joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la béatitude de Dieu, à la béatitude de Dieu, l'amour fraternel, l'amour pour tous les hommes. Car en effet, si ces qualités existent en vous, s'accroissent et y abondent continuellement, elles ne vous laissent pas, pour ce qui est de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sans rien faire et sans porter de fruits. Au contraire, celui en qui ces qualités n'existent pas est aveugle par myopie au point de ne voir que ce qui est le plus proche. Et il a laissé dans l'oubli la purification de ses péchés passés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous avec d'autant plus de soin à affermir votre appel et votre élection, car si vous faites cela, vous ne tomberez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement et richement accordée. Oui, nous remercions le Seigneur pour des paroles aussi précieuses, pour tous ses apôtres et prophètes, pour tous ses serviteurs qui l'ont fidèlement servi et qui ont placé la vérité sur le chandelier. Nous avons lu, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Et c'est ce que nous voulons faire. Laissons-nous affermir ces choses afin que le jour où le Seigneur viendra nous chercher, nous puissions nous tenir là vêtus de blanc et aller à sa rencontre. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons en ces derniers temps entièrement préparés pour le jour de son glorieux retour. Prions et confions cette transmission au Seigneur. Fidèle Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité, et de ce que tu nous portes chaque jour. Nous te remercions d'avoir des serviteurs si fidèles qui placent toujours la vérité sous le chandelier. Seigneur, bénis-nous, touche chacun d'entre nous, et fais-nous vivre dans toute sa réalité profondément cette parole que nous avons lue dans l'épître de Pierre, afin que nous soyons prêts quand tu reviendras. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains et te remercions, Seigneur, pour cet après-midi. À toi soit l'honneur, la gloire, et accomplis en nous ce pourquoi tu envoies ta parole, à savoir la préparation pour le jour glorieux de ton retour. À toi la louange, l'honneur et la gloire, en ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Je voudrais moi aussi saluer tout le monde très chaleureusement au nom très précieux du Seigneur. Nous sommes très très reconnaissants pour ces émissions, très très reconnaissants, car le monde entier écoute et est ainsi informé de ce que Dieu a promis pour cette époque. Et comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction de frère Scherer, il s'agit de recevoir par les promesses divines une part à la nature divine, d'avoir part à la nature de Dieu lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlerons principalement des promesses de Dieu et nous soulignerons l'importance des promesses et l'importance de croire aux promesses de Dieu. Un auteur-compositeur de cantiques dit « Les promesses de Dieu demeurent, elles ne chancellent pas éternellement. » C'est dans son sang que Jésus a scellé ce qu'il a promis dans sa parole. Et nous le savons tous, et l'avons souvent souligné, le Nouveau Testament commence par l'accomplissement des promesses qui ont été faites au cours de l'Ancien Testament. Oui, jusqu'au point où il est écrit que nous sommes interpellés en tant qu'enfants de la promesse. Abraham a été le premier et le meilleur exemple. Dès le premier entretien que le Seigneur a eu avec Abraham, en Genèse, chapitre 12, le Seigneur Dieu a fait la promesse. Peut-être lisons-nous le passage biblique maintenant, s'il te plaît. Nous lisons dans Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les descendances de la terre. En toi seront bénies toutes les descendances de la terre. Abraham a cru Dieu. Abraham a cru aux promesses. Abraham était obéissant. Et en lui, tous ceux qui croient aux promesses de Dieu, tous ceux qui croient de tout cœur ce que le Seigneur a promis, doivent aussi être bénis. La foi seule est suspendue dans l'air. La foi a besoin de promesses dans lesquelles elle est ancrée. Et c'est pourquoi toute promesse est liée à son accomplissement. Et seuls les vrais croyants croiront aux promesses de Dieu et auront part à la nature de Dieu, la nature divine, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, à savoir que nous avons part à la nature divine par les promesses, à la nature de Dieu lui-même, par les promesses de Dieu, parce que nous avons absorbé en recevant dans notre cœur les promesses de Dieu, la parole promise, la substance divine elle-même en nous. Et c'est pourquoi les croyants se différencient jusqu'à aujourd'hui. Les uns sont des croyants comme ça. En général, ils croient ce qu'on leur prêche. Mais les vrais croyants croient les promesses, participent à la nature divine. Et c'est exactement ainsi qu'ils vivent l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Galates chapitre 4, le verset 28. Galates chapitre 4, verset 28. Mais vous, frères, vous êtes à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. Nous ne pouvons que dire amen à cela. Vous, frères, et il parle à ceux qui ont reçu la parole, qui l'ont acceptée, qui ont même été scellés du Saint-Esprit. C'est à eux qu'il parle et qu'il dit, vous êtes, chers frères, des enfants de la promesse comme Isaac l'a été. Et nous pouvons croire de tout cœur que nous sommes maintenant enfants de la promesse. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen est prononcé par lui à la gloire de Dieu par nous. Nous pouvons également dire amen à cela. Et il me tient vraiment à cœur de recommander à tous les frères et sœurs de tous les peuples et de toutes les langues de ne pas croire seulement comme ça en général. Et je voudrais rappeler ici de ne pas avoir comme ça une foi générale. Mais je voudrais rappeler ici la première venue du Christ. Tous ont cru. Les Juifs ont cru. Tous ont lu la Torah. Tous ont célébré le sabbat. Ils ont tous cru. Ils ont tous cru. Mais ils ont cru selon l'interprétation que les scribes leur ont donné de la parole de Dieu. Les vrais croyants ont eu part à la promesse que Dieu avait faite. Promesse destinée à la première venue du Christ. Voici. Et cette promesse était, voici que j'envoie mon messager devant moi qui me préparera le chemin. C'était la promesse. C'était une promesse. Et les enfants de la promesse, lors de la première venue du Christ, ont cru dans leur époque à cette promesse et l'ont reçu et accepté avec foi et reconnu dans le ministère de Jean-Baptiste. C'est exactement ce qui se passe dans Ésaïe 40, avec Ésaïe 40. Il est écrit là qu'une voix retentit dans le désert, aplanissait une route pour notre Dieu. Vous connaissez tous, n'est-ce pas, ces promesses. Et maintenant, il faut le souligner encore une fois. Les enfants de la promesse, lors de la première venue du Christ, n'ont pas écouté ce que les scribes et les pharisiens disaient et enseignaient. Dieu leur a révélé, donc eux, les enfants de la promesse, à eux, Dieu a révélé que Jean-Baptiste était le prophète promis qui apportait le message divin afin de pouvoir conduire au Seigneur un peuple bien préparé. Un homme envoyé par Dieu, un prophète promis qui pouvait s'exclamer à haute voix, « Je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Cela n'avait absolument rien à dire aux scribes et aux pharisiens. Mais pour les véritables croyants, dont Jean Baptiste pouvait dire, en tant qu'ami de l'époux, il a pu crier au peuple que la prophétie biblique s'accomplissait maintenant sous leurs yeux et qu'il pouvait y avoir une part directe. La même chose, frères et sœurs, se passe à notre époque. Nous ne sommes pas là pour juger, mais soyez sincères. Dans toutes les églises, on enseigne et on croit, il est enseigné et il est cru, mais on ne touche pas aux promesses que Dieu a faites pour cette époque dans laquelle on vit. Elles ne sont même pas prises en compte dans leur prédication. Avez-vous entendu une seule fois que dans les églises baptistes, méthodistes dans toutes les églises. On a parlé, on a prêché concernant la promesse pour ce temps. Avez-vous déjà entendu dans une dénomination la prédication de Malachie? Voici que je vous envoie le prophète Élie avant que vienne le jour grand et terrible et redoutable de l'Éternel. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père. Avez-vous déjà entendu que les scribes de notre époque auraient prêché à propos de Malachie, chapitre 17, qu'Élie doit venir premièrement pour rétablir toutes choses? Avez-vous déjà entendu des évangélistes prêcher en mentionnant les promesses pour cette époque dans laquelle on vit? Non. Ils ont tous leur propre programme. Ils croient tous. Ils pensent tous servir Dieu. Mais ici est la différence entre les élus qui croient vraiment de tout leur cœur ce que Dieu a promis dans sa parole pour notre époque, qui ainsi deviennent participants de la nature divine, et comme nous l'entendrons plus loin dans la parole, qui peuvent ce sont ceux-là qui peuvent se dépouiller du vieil homme. Ce sont ceux-là qui peuvent se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau créé selon la justice de Dieu lui-même. Poursuivons notre lecture. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin de connaître ce qui nous a été donné de Dieu par la grâce. Amen. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Non. Nous avons reçu l'esprit de Dieu pour connaître, pour être introduit dans ce que Dieu nous a promis, ce que Dieu a préparé pour nous. C'est ainsi que Paul l'a exprimé par une effusion générale de l'Esprit Saint. Beaucoup l'ont reçu. Il y a des millions de personnes qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit. Mais la Bible dit clairement, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, conduits dans toute la vérité, ceux-là sont des fils de Dieu. Et Paul écrit ici, nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a données par grâce, pour connaître ce que Dieu nous a donné par grâce. Donc, pour reconnaître ce que Dieu a promis pour cette dernière époque, pour l'Église. dans cette dernière époque pour l'Église. Nous savons tous que la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux et seuls les aveugles ne peuvent pas le voir. Le monde entier voit l'accomplissement de la prophétie, ou bien alors des prophéties bibliques. Tout ce que notre Seigneur a prédit dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, concernant les guerres et les cris de guerre, les tremblements de terre, les famines, les pestes et tout ce que le Seigneur a prédit, a annoncé à l'avance, se produit sous nos yeux, chaque jour, nous recevons de nouvelles informations sur ce qui se passe dans le monde entier. Et aujourd'hui, tous sont informés quotidiennement de ce qui se passe dans chaque pays. Frères et sœurs, sur ce point, sur ce thème, il faut dire que notre Seigneur a spécialement insisté en disant, quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, relevez vos têtes, car votre rédemption est proche. Relevez la tête, car votre rédemption est proche. Aujourd'hui, tout le monde peut lire, oui, dans toutes les églises, aussi les passages bibliques qui parlent de l'accomplissement de ce qui se passe maintenant dans le monde entier. Mais nous pouvons parler aussi de ce que Dieu a promis, pas seulement prédit, mais promis. Celui qui lit, par exemple, Matthieu 24, constatera ce que le Seigneur a dit, ce qui arrivera alors à Israël, à Jérusalem, au Temple. Tout cela est annoncé à l'avance et ensuite, celui qui lit pourra lire plus tard ce qui allait se passer en général. Mais entre ces deux choses, il y a le verset principal, le message de salut du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations. En témoignage, et alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Le Seigneur a parlé de ce qui arrivera au temple, à Jérusalem, ce qui arrivera avec Jérusalem et à Israël. Tout est arrivé, tout le reste arrive. Mais notre tâche principale est tout de même de proclamer maintenant l'évangile valable éternellement, de la manière dont les apôtres l'ont eux-mêmes annoncé autrefois avec toute la véracité divine, qu'il n'y a vraiment qu'un seul Dieu, pas trois personnes éternelles, pas trois omnipotents, pas trois omniscients, pas trois omniprésents, mais un seul véritable éternel Dieu constitué d'une seule personne qui s'est révélé pour notre salut dans le ciel en tant que Père, sur la terre dans le Fils et ensuite par le Saint-Esprit dans l'Église. Mais c'est justement la prédication biblique. Allez aujourd'hui dans toutes les églises. On entend le mot Trinité, Trinité. Et pas une seule fois ce mot Trinité n'apparaît dans la Bible. Pas une seule fois le mot le Dieu trinitaire n'apparaît dans la Bible. Pas une seule fois dans la Bible, il n'est écrit Dieu le Fils. Frères et sœurs, le temps est là pour nous de relire la Bible. Il est toujours écrit encore, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très, très important. Là où Dieu est écrit, Dieu, le mot, là, Dieu doit être laissé à sa place. Et là où il est écrit Seigneur, là, on doit laisser cette expression Seigneur. Dès le début, nous voyons cette différence sur laquelle nous ne pouvons pas nous étendre dans cette étude biblique aujourd'hui. Mais disons-le encore une fois, la véritable Église revient maintenant à la véritable foi, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, comme c'est écrit dans Éphésiens 4. Et ce baptême se fait dans le nom en qui Dieu s'est révélé à nous comme Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, à savoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tout le monde savait, malheureusement savait, que la Bible a été traduite par des gens qui croyaient à la Trinité. Et si on se contentait de lire « Aller dans le monde entier, enseigner toutes les nations et baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », alors il faut simplement dire que quiconque a lu les 21 traductions de la Bible, quiconque a lu en hébreu, a lu en latin, a lu en grec, cela n'est écrit dans aucune Bible, exactement comme nous venons de le dire. Mais il est écrit, mais allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Et puis, ensuite s'accomplit. Celui qui croit et qui est baptisé, et baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les dans. Donc, le Père est un titre. Le Fils est un titre. C'est pas un nom, s'il vous plaît. Et nous devons baptiser au singulier dans le nom. Donc, pas dans les noms, mais dans le nom dans lequel Dieu s'est révélé à nous. Dans le nom. Et s'il vous plaît, vous aussi, prédicateur, s'il vous plaît, lisez donc le Nouveau Testament avec respect. Respectez les Écritures. Lisez ensuite les Actes des Apôtres. Lors du premier sermon, lors de la fondation de l'Église du Nouveau Testament, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a dû s'exclamer et proclamer que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes apôtres 2, 38. Et c'est ainsi que tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ depuis la Pentecôte pendant tout de la période apostolique. Frères et sœurs bien-aimés et chers prédicateurs, surtout dans les églises pentecôtistes. Comment pouvez-vous prétendre avoir reçu le Saint-Esprit et ne pas enseigner comme Pierre l'a enseigné, ne pas baptiser comme Pierre a baptisé, ne pas enseigner comme Paul l'a enseigné, ne pas baptiser comme Paul a baptisé? Comment pouvez-vous prétendre avoir reçu le Saint-Esprit et rester toute votre vie dans les faux enseignements sur la divinité et le baptême et égarer le peuple de Dieu? Nous avons pourtant lu, vous avez reçu de Dieu l'Esprit qui vous conduit dans toute la vérité. Jean 17. Le Saint-Esprit ne confirme pas les fausses doctrines. Le Saint-Esprit ramène à la parole. Et c'est pourquoi nous apprécions tant le ministère de Frère Branham que Dieu a envoyé avec un appel spécial Donc, l'a envoyé avec un appel spécial avant le retour du Christ, avec un message divin. C'est lui que Dieu a pu utiliser pour proclamer à nouveau les enseignements bibliques sur la divinité, le baptême d'eau, le souper, tous les enseignements bibliques, toutes les doctrines bibliques, et pour donner au peuple de Dieu la possibilité de croire comme l'Écriture l'a dit. Et c'est maintenant que sera révélé si nous écoutons vraiment ce que l'Esprit a à dire aux églises par la parole ou si nous continuons comme jusqu'à présent, malgré tout. Lisons encore plus loin dans la parole. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute irritation, toute colère, animosité, toute rancœur, tout cri et toute injure, calomnie, soit retirée du milieu de vous, même toute malice et toute espèce de nature méchante. Faites plutôt preuve de bonté et de cœur les uns envers les autres, en vous pardonnant mutuellement comme Dieu en Christ vous a pardonné. Remercié soit notre Seigneur pour une telle profonde parole, un avertissement fondamental à se débarrasser, à se dépouiller du vieil homme et de tout ce qui s'y rattache, à vivre un renouvellement total. Et nous revenons à la parole d'introduction pour avoir part à la nature divine. Se débarrasser de la vieille nature, se dépouiller du vieil homme, de la vieille nature, du vieil homme, du vieil être, de la vieille nature. Frères et sœurs, il me tient à cœur que chacun d'entre vous relise ces passages bibliques dans la prière et s'examine pour savoir si c'est ainsi chez nous, en nous, si cela a déjà pu devenir ainsi, comme cela doit être ainsi, pour que nous puissions subsister devant Dieu. La proclamation du message de la fin des temps, le véritable message divin du salut, a un objectif. C'est de présenter l'Église épouse de telle sorte qu'elle soit prête, sans tache et sans ride, lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pourquoi la proclamation approfondie de la parole de Dieu, selon laquelle le vieil homme est vraiment dépouillé, mort, et que nous sommes morts avec Christ, enterrés, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui pour marcher désormais en nouveauté de nature, en nouveauté de vie, comme Paul en a témoigné dans Romains chapitre 6. S'il vous plaît, mettez-vous vous-même à l'épreuve à ce sujet et examinez-vous vous-même et le Seigneur vous accordera sa grâce. Je vous en prie. Nous lisons dans Colossiens 3 maintenant le verset 8 à 10. Colossiens 3, verset 8 à 10. Mais maintenant, vous aussi, dépouillez-vous de tout ce qui est semblable. La colère, l'irritation, la méchanceté, les injures et les paroles désagréables de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous avez dépouillé le vieil homme et toutes ses manières d'agir et revêtu l'homme nouveau, renouvelé pour la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Remercions le Seigneur. Je l'ai déjà dit et nous l'avons lu ici. Se dépouiller du vieil homme, revêtu de l'homme nouveau, revêtir l'homme nouveau. Je voudrais m'adresser à des frères et sœurs qui respectent la parole de Dieu, qui entrent en jugement avec eux-mêmes et pas avec les autres, et qui se posent la question, Seigneur bien-aimé, puis-je, dans mon état, me tenir et subsister devant toi? Accorde-moi la grâce que toutes ces paroles trouvent leur accomplissement en moi et par moi, que je puisse me dépouiller totalement et complètement du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Dieu a conclu une nouvelle alliance, il nous a donné un cœur nouveau, une vie nouvelle par grâce, à savoir la vie éternelle. Et le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Et le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Nous voyons combien il est nécessaire, et comme les apôtres l'ont également souligné, que même si nous sommes déjà scellés du Saint-Esprit, nous ne devons pas l'attrister. Nous ne devons pas l'attrister en donnant de la place au vieil être, à la vieille nature, au vieil homme, mais que nous demeurions dans le nouvel être, dans la nouvelle nature, dans le nouvel homme, et servions le Seigneur, et que nous ayons réellement déposé tout, que nous sommes débarrassés de tout, dépouillés tout ce qui appartient encore au vieil homme pour marcher avec le Seigneur. Je vous en prie. Nous lisons Éphésiens 5, versets 26 et 27. Éphésiens 5, versets 6 et 27. Pour la sanctifier après l'avoir purifiée par le bain d'eau dans la parole, afin de présenter ainsi l'Église à lui-même dans une beauté glorieuse, sans tache ni ride, ni aucun défaut de ce genre, mais plutôt de manière à ce qu'elle soit sainte et sans reproche. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Il suffit de souligner une fois de plus que c'est par le sang de la nouvelle alliance que nous avons été retirés de la perdition, que nous avons été sauvés et que d'enfants d'hommes, le Seigneur a fait de nous des enfants de Dieu. Il a déchiré la lettre de condamnation, il a effacé et déchiré, il a tout pardonné par grâce et il a tout refait nouveau. Ça, c'est la première partie, celle qui concerne le sang de la nouvelle alliance. La deuxième partie, nous venons de la lire. Lavé au bain d'eau de la parole. Voici la parole. Et il est réellement écrit bain d'eau dans la parole. Donc, pas seulement une aspersion avec la parole, mais une immersion dans la parole de Dieu et avec la parole de Dieu. De même que nous avons été entièrement justifiés, purifiés, sanctifiés par le sang, de même nous sommes immergés entièrement, purifiés entièrement, sanctifiés par le bain d'eau de la parole. Et pour cela que Dieu nous accorde sa grâce. Pourquoi les apôtres ont-ils annoncé ainsi la parole? Pourquoi frère Branham a-t-il dû mettre l'accent sur la parole à notre époque? C'est pour qu'une correction divine puisse être apportée. Une correction. Et je souhaiterais que toutes les églises puissent être plongées dans le bain de la parole. Mais cela n'est pas promis et n'arrivera pas. Mais les élus, ceux qui ont été pardonnés par Dieu, réconciliés par le sang de l'agneau, ceux qui sont conduits réellement par le Saint-Esprit, ceux-là seront plongés dans le bain d'eau de la parole et immergés. Et alors, toutes les fausses doctrines tomberont, toutes les interprétations, toutes les doctrines qui ne sont pas dans la parole de Dieu doivent tomber tomber. Nous sommes immergés avec tout ce que nous avons. Nous avions, mais en mettant en évidence uniquement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et comme Paul l'a exprimé, pour présenter au Seigneur une épouse lavée de toutes ces choses. Oui, une église sans tache, sans rides. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le troupeau racheté par le sang prend un bain complet dans la parole de Dieu. Et il ne reste alors rien d'autre que la parole pure et sainte de Dieu dans l'église du Dieu vivant. S'il te plaît, nous lisons dans Romains chapitre 5, le verset 5. Mais l'espérance ne conduit pas à la déception, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Amen.
Plus de déception, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et nous pouvons glorifier Dieu, notre Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et avec toute notre pensée qui a été ordonnée bibliquement et est effectivement préparée comme épouse et pouvoir rencontrer l'époux dont nous attendons le retour dans nos jours. Le retour, promis de notre Seigneur est proche. Et tous les enfants de la promesse qui ont reçu l'esprit de la promesse croient que le dernier message précède le retour de Christ dans le monde entier. Même aujourd'hui, cette émission va dans le monde entier afin que l'Église épouse soit préparée et puisse se tenir sans tache et sans ride devant lui lors du retour de Jésus-Christ. S'il te plaît. Nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pour cela, que le Seigneur Dieu nous fasse la grâce de prendre au sérieux la proclamation d'aujourd'hui. Frères et sœurs, il ne suffit pas de dire « Je crois que Dieu a envoyé un prophète. Je crois au message de la fin des temps. Je crois que je suis scellé. » Cela ne sert à rien si notre foi n'a pas intégré tout le reste, que nous sommes dépouillés du vieil homme, que nous sommes débarrassés et laissés laver de tout ce qui ne vient pas de Dieu dans le bain de la parole, de toutes les interprétations et de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Nous devons tous en arriver à pouvoir dire en toute bonne conscience, Seigneur, bien-aimé, si tu revenais aujourd'hui, serais-je prêt à te rencontrer et à entrer avec toi dans la gloire? Que nous atteignions effectivement cet état, cet humble état divin, que nous examinions nous-mêmes et que nous soyons obéissants et que nous nous débarrassions et que nous nous dépouillons de ce qui appartient au vieil homme. Au vieil homme lui-même et à ses œuvres à revêtir tout ce qui appartient à l'homme nouveau pour pouvoir ensuite vivre vraiment en accord avec la parole de Dieu en toutes choses et attendre et prétendre ensuite attendre le retour de Jésus-Christ, de notre Seigneur. Et comme nous l'avons lu, le Seigneur ne manque pas, ne tarde pas à accomplir ses promesses. Il tiendra sa promesse, il l'accomplira, la promesse de son retour. Il a en effet promis, je m'en vais vous préparer une place, Jean 14, et je reviendrai et je vous prendrai avec moi. La promesse demeure et s'accomplira. Mais il attend que les derniers soient appelés. à sortir, que les derniers soient arrivés et que le nombre devienne total et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur vous tous, donc que les derniers soient entrés. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur vous tous, dans le monde entier, dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir servir le peuple de Dieu, et cela dans le monde entier, grâce à la transmission dans toutes les langues. Et une fois de plus, nous envoyons nos salutations de Zurich. Une fois de plus, nous souhaitons que les derniers soient appelés et soient ajoutés. Une fois encore, je souhaite de tout cœur que tous fassent maintenant un véritable examen de conscience et disent: Seigneur bien-aimé, aie pitié de moi. Fais-moi grâce, aide-moi, je veux être prêt devant toi quand tu reviendras. Donc, nous sommes donc convaincus qu'aussi certainement qu'il est écrit, ceux qui étaient prêts entrèrent au festin de noces. Aussi certainement qu'un groupe choisi, les vierges sages de Matthieu 25, l'épouse de Christ, est maintenant conduite à la perfection. Et comme Abraham, disons-le encore une fois, il a cru Dieu. Il a cru à la promesse. Nous aussi, nous croyons Dieu et nous croyons aux promesses que Dieu nous a faites dans sa parole, y compris la promesse du retour de Jésus-Christ à notre époque. Et permettez-moi de souligner à nouveau ce que le Seigneur a dit. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, car votre rédemption approche. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur vous tous, au nom saint de Jésus. Amen. C'est la nostalgie de ce pays où la joie et la paix habitent. Ici, il y a encore des larmes et des détresses. Là-bas, ce sera glorieux. Ôte de moi ce qui ne te plaît pas, ô Seigneur. Comme je suis, Seigneur, ainsi je viens à toi. Par ton sang, lave-moi et que je sois rempli de ton esprit. Accorde-moi ta grâce pour vivre pour toi et pour toi seul. Bientôt nous verrons tous nos bien-aimés dans la gloire. Dès maintenant, aujourd'hui, que cela soit ma prière. Ôte de moi tout ce qui ne te plaît pas, ô Seigneur. Tel que je suis, je viens à toi. Par ton sang, lave-moi et que je sois rempli de ton esprit. Accorde-moi la grâce de vivre seulement pour toi. Alors que l'ennemi essaie de m'attirer sur le chemin de la perdition. Tu m'as fait grâce de le discerner et de marcher qu'avec toi. Ôte ce qui ne te plaît pas en moi, ô Seigneur. Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Par ton sang, lave-moi et que je sois rempli de ton esprit. Accorde-moi la grâce de vivre que pour toi.